Ah, l'été, le soleil, les vacances, les expulsions de camps, camps de Roms, camps de migrants. Cette fois, c'est le camp de Noronfontes qui fait l'objet d'une menace d'expulsion. On en parle avec Dominique Bourgeois, militante de l'association Terre d'Errance, qui intervient sur le camp de réfugiés de Noronfontes.
Le camp de Noronfontes est situé près de l'aire de Saint-Hilaire-Côte, l'aire d'autoroute, puisqu'en fait, tous les camps de la région, d'ailleurs, sont situés à proximité d'une aire pour pouvoir d'autoroute ou près du tunnel, par exemple, pour pouvoir monter dans les camions et passer en Angleterre, puisqu'en fait, le campement, on va dire, puisque c'est pas vraiment un camp organisé, type les camps qu'on organise, que l'État organise, hein, là, c'est un campement, donc existe là depuis... officiellement avec ces baraquements construits depuis 2012, mais bien avant, depuis le début des années 2000, il y a toujours eu des exilés qui essayaient de passer en Angleterre par le biais de l'aire d'autoroute de Saint-Hilaire-Côte, comme l'aire d'autoroute près de Steenvoorde ou l'aire d'autoroute près de Schokk, là, puisqu'en fait, dernièrement, il y avait aussi un campement organisé près de Schokk, qui a été démantelé d'ailleurs il y a un peu plus d'un mois.
Ces dernières années, ce camp était fréquenté surtout par des exilés érythréens. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, en fait, la population du campement, ce sont des Érythréens, des Soudanais et des Éthiopiens. Ils sont actuellement au nombre à peu près de 250 et le campement est organisé sur un terrain municipal qui avait été mis à disposition par la précédente commune qui avait soutenu l'association Terre d'Errance et Médecins du Monde, qui avait donc en 2012 construit des baraquements, 4 baraquements sur ce campement. Et puis depuis l'incendie de 2 baraquements en avril 2015, bon là il n'y a pas eu de réaction, je dirais, positive de l'État, de la municipalité pour prendre en charge les exilés qui se retrouvaient sans toit. Et du coup, les associations, des personnes individuellement sont venues apporter des tentes. Et ben, ce qui devait arriver est arrivé. Les exilés se sont installés puisque des tentes, des petites tentes, ça prend plus de place qu'un baraquement où peuvent se loger jusqu'à 40 personnes. Là, maintenant, les exilés se sont installés sur un terrain aussi privé, juste qui jouxte le terrain communal. Et donc maintenant, on pourrait dire qu'on a deux camps, un sur un terrain communal et l'autre sur un terrain privé. Et en fait, ce qui arrive aujourd'hui, donc le référé en expulsion, je dirais, concerne deux terrains, le terrain municipal et le terrain privé. Il y a donc deux plaignants, hein, la municipalité de Noronfontes et les personnes privées qui possèdent le terrain sur lequel sont installés, là aussi, peut-être, je sais pas, une centaine de migrants.
Avant de revenir sur cette procédure d'expulsion, encore deux, trois mots pour bien comprendre le contexte. Ces Éthiopiens, ces Soudanais, ces Érythréens, ils fuient leur pays pour des raisons politiques.
Oui, tout à fait. En fait, ce sont des personnes qui vivent des situations dramatiques dans leur pays, soit comme en Érythrée, une dictature sans nom, hein, qui est dénoncée notamment par Amnesty International, par Reporters sans frontières, comme étant l'une des dictatures les plus graves au monde. On la compare à la Corée du Nord. Et puis, il y a le service militaire à durée indéterminée, hein, pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs. Et ce sont donc, du coup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui s'enfuient d'Érythrée pour échapper au service militaire et puis aussi à la dictature. Et puis, bah, au Soudan, là, dernièrement, encore hier, on parlait de la guerre qui se réveillait encore un peu plus au Soudan. Donc, on fuit aussi la guerre, quoi. Donc, ce ce sont des personnes qui pratiquement, enfin, sont vraiment dans des situations dramatiques et qui, mais vous le savez sûrement, hein, on en parle beaucoup, tous ces naufrages en mer, etc., bah, qui risquent leur vie pour quitter leur pays, mais aussi pour passer en Angleterre, puisque l'année dernière, il y a plus de 20 personnes qui sont aussi mortes en essayant de passer en Angleterre. Donc voilà, la situation pour eux, c'est pas du tout pour du tourisme. Hein. On n'est pas du tout dans une situation d'exode pour trouver le soleil. Hein. C'est pas le cas ici, ni pour trouver. Voilà, c'est juste trouver la paix et pouvoir vivre qu'ils cherchent ces exilés. Alors, ils vont en Angleterre parce qu'en fait, ils parlent anglais la plupart. Enfin, même tous parlent anglais, ont de la famille et des amis en Angleterre. Et pour eux, c'est ce qu'ils ont cherché en partant, hein, en fuyant. Bah, c'était l'Angleterre qu'ils voulaient rejoindre. Donc après, il est très difficile pour eux de changer de cap et de se décider éventuellement même à rester, par exemple, en France. Hein, on se demande pourquoi ils veulent pas rester en France, d'autant plus qu'en France, eh ben, l'accès à l'asile n'est pas simple du tout, reste compliqué. Et pendant des années et des années, c'était pratiquement pour eux très, très difficile, en tout cas très incertain, de demander l'asile en France. Voilà, la seule solution pour eux reste d'aller en Angleterre.
Je reviens sur la procédure d'expulsion dont fait l'objet le camp de Noronfontes. Hein, on l'a bien compris, il y a à la fois une démarche de la ville de Noronfontes et puis aussi des agriculteurs, hein, qui sont propriétaires
des propriétaires privés, oui, qui possèdent, ouais, ce terrain, oui.
Alors pourquoi cette demande d'expulsion et pourquoi maintenant?
Bah, je pense qu'il y a actuellement et on le voit se profiler une pression de l'État pour démanteler au fur et à mesure les camps et rassembler peut-être le plus de monde possible à Calais, dans des conditions d'ailleurs qui deviennent très explosives à Calais. Et bon, je pense que c'est sous pression. Bon, d'abord, le maire de Noronfontes, l'actuel maire, n'a jamais été pour le campement. Hein, et il l'a exprimé clairement. Et les propriétaires privés, bon, c'est leur propriété privée, même si aujourd'hui, et depuis, ils n'ont jamais, je dirais, cultivé ou tiré profit de cette parcelle de terrain. Bon, c'est une propriété privée, le droit privé en France est important. Mais en tout cas, la mairie de Noronfontes, aujourd'hui, exprime vraiment son désir de supprimer le camp et pense sans doute qu'en supprimant le camp, elle va supprimer les exilés qui marchent dans les rues de Noronfontes, enfin d'ailleurs qui marchent entre Isberg et Noronfontes, parce que souvent ils reviennent de leur expédition pour essayer de rejoindre l'Angleterre. Bon, ils sont déchargés à Calais et puis ils reprennent le train et ils reviennent à Noronfontes à pied. Peut-être que le maire pense que ça va supprimer le problème de ces exilés qui marchent dans son village, qui d'ailleurs ne cause pas de soucis majeurs dans le village. Je pense qu'il a tort, hein, et ça ne va pas supprimer le problème. Ça va certainement même peut-être l'augmenter, puisque s'ils ne savent pas où aller, ils vont errer encore plus, et peut-être ce qui se passait d'ailleurs auparavant, bah essayer de s'abriter à droite à gauche dans des conditions inhumaines encore plus, et puis surtout sans accompagnement des associations, sans soutien, et ça va vraiment, je pense, être pire que la situation d'aujourd'hui. Et de toute façon, ces exilés seront toujours là, donc il n'aura pas supprimé le problème majeur de ces personnes qui essayent de rejoindre l'Angleterre. Donc je pense qu'ils se trompent en voulant l'expulsion et en ne souhaitant pas travailler avec nous et en essayant de faire bouger l'État dans ses positions aujourd'hui de démantèlement partout, puisqu'on a assisté au démantèlement à Choc. Là, il y avait une vingtaine d'exilés, mais hier, c'était à Steenvoorde où il y avait, je pense, à peu près 80 personnes. C'était à Dieppe. Et au fur et à mesure, on sent se rapprocher les taux pour essayer de rassembler tout le monde sur Calais, où on le sait, parce qu'on a des personnes, des militants qui interviennent aussi sur Calais, la situation est vraiment très, 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 très difficile et dénoncée d'ailleurs par le défenseur des droits de l'homme très, très régulièrement.
Suite de notre entretien par téléphone avec Dominique Bourgeois, militante de l'association Terre d'Errance, une asso qui apporte une aide humanitaire auprès des réfugiés du camp de Noranfonte. Je reviens sur la logique de l'État dans tout ça. Démanteler, vous l'avez dit un petit peu, les petits camps. Bon, à Stanford, ils ont amené les gens, ils ont sorti de la région. Ils ont amené les gens en bus apparemment vers le centre de la France, c'est ça?
Oui, bah c'est la pratique qui est effectivement exercée. C'est d'essayer de proposer donc aux migrants de monter dans des autobus pour pouvoir rejoindre une région en France où, là, ça s'est passé lors des démantèlements à Calais. Donc, il y a eu des personnes qui ont été effectivement, expatriées vers des camps, des centres d'accueil et d'orientation. Un certain nombre sont remontés sur Calais, sont repartis, et en fait, à Calais, il n'y a pas moins d'exilés aujourd'hui qu'il y a, une petite année, puisque ces opérations sont, enfin, même 6 mois à peu près. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, si on arrive jusqu'au démantèlement à Noranfonte, l'État ramènera des autobus. J'espère qu'on n'y fera pas monter les exilés de force, parce que si à Stanford, il est marqué dans le journal qu'ils s'y sont pliés volontiers, c'est pas ce que nous racontent les bénévoles de Stanford. C'était quand même une obligation pratiquement, et on sait bien que quand on est dans des situations comme sont les exilés, ils n'ont pas forcément beaucoup de choix de pas monter dans l'autobus. Mais une fois arrivés à destination, il est fort probable qu'une certaine partie d'entre eux remonteront, et que de toute façon, il y en a toujours d'autres qui arrivent aussi. Donc le problème ne sera pas évacué pour autant. Donc on aura peut-être évacué des exilés pendant un certain temps qui remonteront, qui essaieront de nouveau d'essayer de passer en Angleterre. Leur projet n'est pas de rester en France.
Là, il y a cette procédure d'expulsion qui a démarré fin juin. Quelles sont les prochaines échéances? Qu'est-ce qui va se passer d'ici là?
D'ici là, on attend, donc il y a normalement un jugement le 27 juillet. Et puis là, on verra. On a bien sûr, l'association s'est entourée d'avocats et on espère que les choses évolueront positivement. Maintenant, on est prêt à soutenir les exilés dans leurs décisions par rapport à ce que la mairie et les propriétaires privés, contre ce que les propriétaires privés et la mairie veulent, et soutenir les exilés dans leurs souhaits. Bien sûr, s'ils souhaitaient vraiment demander l'asile, on les accompagne de toute façon quand ils souhaitent demander l'asile, et il y en a qui ont souhaité demander l'asile, quelques-uns, et on les a accompagnés avec d'autres associations comme l'association Eux c'est nous qui propose dans la région de Montreuil et d'Hesdin d'accompagner des personnes pour des périodes de répit, et quelques-uns ont demandé l'asile, mais bon, c'est une infime partie par rapport au grand nombre qui, de toute façon, ont leur famille en Angleterre, ont leurs amis, et voient pas comment rester en France, isolés, ou ils ne souhaitent pas faire leur vie en France. Nous, on les accompagnera jusqu'au bout pour les soutenir, et on verra à partir du 27 juillet ce qui va se passer. On est prêt à à ne pas laisser la situation devenir dramatique pour ces exilés.
Cette procédure d'expulsion intervient en période estivale, une période aussi compliquée en termes de mobilisation. Comment vous voyez ça ?
Bah, oui, c'est vrai, mais en fait, Terre d'Errance a aussi un bon réseau d'adhérents et de militants. Mais bien sûr, c'est vrai, c'est pernicieux hein, de faire ça en période estivale. C'est sûr qu'il y a moins de personnes, mais bon, tout le monde part pas en vacances en même temps. On se relaie et puis on s'organise pour pouvoir faire en sorte que les exilés ne sont toujours accompagnés. Hein. Il y a toujours le médecin qui vient sur le camp régulièrement, les infirmiers, infirmières bénévoles, hein, tout ça bénévole, les associations, je dirais, de notre réseau qui viennent faire des actions. On a ça s'arrête pas l'été, hein. Les exilés sont là tout le temps, été comme hiver, et notre action, elle dure toute l'année. C'est d'ailleurs ce qui est difficile pour aussi les militants qui sont investis, c'est que ça, il n'y a pas un jour sans devoir être présent et pouvoir répondre à une sollicitation, un problème, aller chercher quelqu'un à l'hôpital, le reconduire, intervenir pour des tas et des tas de choses, quoi. Donc, on est là, on est présent et on sera là, même après le 27 juillet, pas de souci. Hein. Mais bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour un réseau de... Mais bon, ça, c'est quand l'État veut effectivement démanteler les camps, il choisit, lui, sa période qui lui semble la plus favorable et donc celle où il pense que les militants sont peut-être moins sur pied pour aider. Hein, donc, mais je pense que là, il se trompe aussi. Hein.
Dernier petit mot peut-être pour signaler aux gens d'Arras qui nous écoutent, hein, qu'il y a plusieurs associations arageoises hein, qui s'impliquent le camp.
Oui, Arras Réfugiés Solidarité. Il y a la BRIC, hein, l'association La BRIC. Donc on a vraiment un très très bon... on fait un très très bon travail ensemble. Dimanche dernier... Arras Solidarité Réfugiés, ben, intervenait sur le camp pour proposer c'était des coiffeuses qui étaient sur le camp, donc aux femmes de pouvoir bénéficier de shampoings, de coupes, etc., enfin de soins de bien-être. Il y avait l'association La Brique qui était là aussi pour proposer un peu de aider au nettoyage du camp et proposer un peu de plantations de menthe, de choses qui peuvent aussi apporter du bonheur, un petit peu de bonheur sur le camp. Donc on a régulièrement l'intervention de ces associations. On a aussi régulièrement l'intervention de l'association comme c'est nous qui est plutôt du côté de Montreuil et d'Hesdin, mais aussi du Secours Populaire, l'association protestante, enfin bon, on a beaucoup de MSF hein, bien sûr qui intervient aussi sur le camp, Gynéco sans frontières. Il y a beaucoup d'associations qui interviennent sur le camp et qui d'ailleurs on a constitué un réseau et on a des réunions régulièrement pour coordonner nos interventions pour qu'elles ne soient pas je dirais, dans tous les sens, et qu'on travaille ensemble pour apporter une aide constructive sur le campement de Noranfonte.
Dominique Bourgeois de l'association Terre d'Errance, jointe par téléphone hier matin. Si vous souhaitez soutenir les réfugiés du camp de Noranfonte menacés d'expulsion, vous pouvez le faire par différents moyens, en adhérant par exemple à l'association Terre d'Errance, en participant à leurs actions sur le terrain. Il y a aussi une pétition qui est en cours de préparation apparemment, et vous pouvez aussi envoyer un courrier directement adressé au maire de Noranfonte. Je vous signale aussi que l'asso Terre d'Errance communique ses actions via un site internet terreerrance.wordpress.com et également sur les réseaux sociaux. Il y a des permanences qui ont lieu tous les lundis au presbytère de Noranfonte, c'est de 14h à 16h. Et puis sachez aussi que l'asso Terre d'Errance intervient en milieu scolaire, au niveau des écoles primaires, des collèges, des lycées, pour sensibiliser les enfants, les ados à la cause des exilés et lutter contre les préjugés racistes. Alors Dominique Bourgeois les a cités, les assos arrageoises La Brique et Arras Solidarité Réfugiés interviennent régulièrement sur le camp de Noronfonte. Elles sont signataires, ces associations, de l'appel pour l'arrêt des expulsions de camps. Je vous signale aussi que le Cercle de Silence d'Arras, donc ce sont des personnes qui organisent des moments de recueil silencieux pour protester contre la manière dont sont traités les migrants dans la région. Donc ces personnes organisent un débat sur le thème « Exiler l'accueil d'abord », donc un débat entre citoyens et paroissiens. Le rendez-vous, c'est demain, jeudi 14 juillet, le matin de 10h30 jusqu'à midi. C'est au temple de l'église protestante unie de l'Artois, rue Victor Hugo à Arras.